Hop.
Ben non.
Hop.
Vraiment.
Happy Chew.
Happy tes souhaits.
Hop, 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 hop.
Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle. C'est un grand artiste québécois sur scène. Le 7 août prochain, le grand Kevin Parent sera sur place. En septembre, La Chicane avec ses plus grands succès. Le 2 octobre, un gars de chez nous, Vincent Lemire. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
Ah, salut Karine!
Salut Nissan! La saison de soccer bat son plein.
Donc la saison des lifts aussi.
Ouais, heureusement le Nissan Rogue a un coffre assez grand pour tout l'équipement.
Et puis avec son autonomie allant jusqu'à 800 km par plein, amenez-en des tournois.
Let's go les dragons!
C'est l'événement marqué avec Nissan. Louer ou financer le Rogue S à partir de 0% jusqu'à 60 mois. Inclus réduction fidélité de 0,4% pour propriétaires Nissan admissibles. Jusqu'au 31 juillet, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la Chopine de Bleuet est à 1,95 puis les bistecs de côte sont à 9,88 la livre ou 21,78 le kilo. Hey, le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 22 juillet en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
À Montréal, toujours live sur le YouTube de BPM.
100% sport.
Dans une ville où le hockey domine, une seule radio soulève la coupe jour après jour. Le phénomène BPM. Pendant que toutes les autres stations te parlent de ce qui va mal, ici, c'est 100% sport. Avec toujours plus d'opinions, plus de débats, plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada. 91.9 BPM Sport. Partout au Québec et toujours live sur le YouTube de BPM, t'écoutes le Club du Matin.
They wanna get mad.
Fais partie du Club de Montréal. 514-790-0919. 1-888-790-0919. T'écoutes le Club du Matin.
Le Club!
Le Club! On est là! Bon lundi tout le monde, bon début de semaine, bienvenue dans le Club du Matin. Olivier Paiement avec vous pour les 4 prochaines heures. Merci d'avoir choisi BPM Sport pour commencer votre journée, que vous soyez à Montréal au 91.9, à Québec au 100.9, Gatineau 96.5, sur l'application mobile ou encore sur notre diffusion en direct sur YouTube, accompagné comme à l'habitude par mon acolyte Hugo Reich. Comment ça va, Hugo?
Ça va bien, toi, mon Ali. J'ai vu des belles photos de toi au chalet.
Oh boy! Hey, il s'en est passé des choses à ce chalet-là.
J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire, mon cher.
Je vais vous raconter ça dans quelques instants, mais juste avant vous dire qu'on a tout un show aujourd'hui parce qu'évidemment, on a eu un gros week-end dans le monde du sport. Finale hier de la Coupe du monde de soccer, l'Espagne qui remporte le deuxième titre de son histoire, un match peut-être qui nous a un petit peu laissé sur notre faim par moment, mais une domination espagnole tout simplement historique dans ce tournoi. On va en parler avec nous, avec nos collaborateurs, notamment Sidney Fowo et Olivier Brett, qui vont se joindre à nous aujourd'hui. On va parler de quelques nouvelles qu'il y a eu cette fin de semaine dans la Ligue nationale de hockey. Un autre jeune joueur qui fait sauter la banque. Un autre jeune joueur aussi qui signe un contrat un peu plus court. Connor Bedard entend de 5 ans, 75 millions de dollars avec les Blackhawks de Chicago. On va en discuter notamment avec Nicolas Saint-Pierre. Beaucoup de choses dans le monde du sport en fin de semaine. C'était l'Omnium britannique. Controverse encore une fois avec Bryson DeChambeau. On va en parler avec Dan Richard. Les Alouettes de Montréal, une autre victoire spectaculaire, une autre victoire où... À leurs partisans, et boy, le cœur pompait par moment. On va en parler avec Mathieu Bédard. Ça va être une grosse, grosse émission. Évidemment, les Blue Jays, la Formule 1. On a été gâtés cette fin de semaine.
Ah,
on
ouais.
a vraiment, vraiment été gâtés. Puis moi, j'ai été gâté aussi. J'ai eu la chance de passer un bon 24 heures, je dirais, au chalet de Gilbert Delorme et de sa femme Diane. Un accueil vraiment, vraiment chaleureux. On était là. Pas mal toute la gang du Club du Matin cette année. Il manquait juste toi, Hugo, mais je sais que t'avais quelques empêchements. On aurait bien aimé que tu sois là.
J'aurais aimé ça être là, sincèrement.
On a été bien reçus. Tu sais, Gilbert et Diane, là, c'est vraiment deux super bonnes personnes. Très, très généreux. C'est une magnifique place qu'ils ont. Vraiment, là, c'est très, très cool. C'était le fun de voir toute la gang. On était là avec nos blondes, avec nos conjointes, avec Anthony Marcotte était aussi là avec ses enfants, fait que c'était le fun de se retrouver ensemble. Ça faisait quand même plus qu'un mois, je pense qu'on n'avait pas tous été ensemble, fait que on a pu jaser, on a fait des blagues. Malheureusement, il faisait pas si beau que ça. Samedi, il pleuvait évidemment, fait qu'on n'a pas pu passer trop de temps dehors, mais quand même, il y avait eu quelques éclaircies par-ci par-là, fait qu'on a pu aller faire un tour sur la ferme.
Je t'ai vu conduire un tracteur, ben, écoute, mon Ali.
J'étais dans mon environnement naturel.
Un homme de campagne.
Ben oui, écoute, Hugo, moi, tu sais, les paiements, en fait, ce sont des fermiers. Moi, mon père a grandi sur une ferme, mon oncle a encore une grosse ferme laitière. Fait que c'est dans mon sang, même si j'étais un gars de la ville, là, écoute, tu me mets sur un tracteur, puis...
T'as réussi à le partir, t'as pas de problème.
J'ai nourri les chèvres, les poules, il y avait des chiens, des chats. Vraiment un beau terrain avec vraiment une belle place, super bien décoré. Là, Gilbert a du goût. C'est clairement lui qui a décoré ça.
C'est sûr.
Fait que Gilbert a du goût, c'est sur le bord de l'eau. Puis là, rendu en soirée, et il pleuvait, et on était rendu un petit peu fatigué, il y avait plus grand-chose à la télé dans le sport. Fait que j'arrive dans le salon, puis les gars, ils me sautent dessus. Il me pogne, il me ligote à une chaise, ils m'ont bandé la bouche pour que je puisse rien dire, et ils m'ont forcé à écouter Slapshot. Vous irez voir la vidéo sur les réseaux sociaux.
Allez voir le compte d'Antoine Marcotte. Là.
Si vous l'avez pas vu, j'avais jamais écouté ce film-là. J'ai déjà raconté l'histoire. J'avais écouté peut-être 2 minutes, puis jamais plus que ça. Ça m'intéressait pas tant que ça. Puis Gilbert, évidemment, était outré. Les autres gars aussi. À peu près tous les auditeurs de BPM Sport aussi. Fait que là, ils se sont dit, garde, on est au chalet. T'as pas le choix. Tu vas l'écouter, ce film-là, que ça te tente ou non. Fait qu'ils m'ont attaché à une chaise, puis ils m'ont forcé à le regarder.
Puis comment t'as trouvé ça?
Tu veux te savoir la vérité?
Ben oui, ben on est là, on est honnête. C'est juste toi puis moi,
Tu vois, à ma première écoute, j'ai fait 2 minutes. Là, on s'est rendu à 10 minutes.
OK.
Il est allé chercher les frères Hanson à la gare de train, puis on a arrêté là.
Ah ouais, hein?
Ouais, fait que...
T'as réussi à enlever le docteur puis t'avais sa bouche.
Exact.
Fait, ça suffit.
J'ai fermé la télé, j'ai cassé la manette. Non, on a écouté les Boys 2 à la place.
Ah, okay. C'est pas pire.
Passez un bon week-end, toi, Hugo?
Ouais, c'était vraiment relax. Écoute, ça fait du bien. J'étais censé être sur les terres et une balle en fin de semaine, mais il a annoncé 25 mm de pluie.
Oui.
Donc, j'ai comme pu profiter de ma fin de semaine, vraiment. J'étais allé en Estrie, c'était vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir. Puis après ça, on a pu revenir tranquillement, se remettre dans le bain,
oui.
Partir la semaine en force.
Oui, parce que se remettre dans le bain, il fallait hier. On a eu droit à un événement sportif d'anthologie. On l'attendait, ce match-là. Espagne face à Argentine, possiblement le dernier match de Lionel Messi à la Coupe du Monde. Et vous savez quoi? Ben on va en parler parce que ça part pour l'édition du 20 juillet 2026 dans le Club du Matin.
Lamine Yamal, Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's magic moment!
En 2010, on avait dû attendre jusqu'à la 116e minute pour le but en or d'Andrés Iniesta, qui a libéré l'Espagne et qui lui a permis de remporter la première Coupe du Monde de son histoire. Ben hier, un scénario un peu similaire, on s'est encore rendu jusqu'en prolongation, et c'est un but de Ferran Torres à la 106e minute qui a permis aux Espagnols de remporter la deuxième Coupe du Monde de leur histoire. Du suspense, il y en avait dans ce match-là. Ça a été, oui, une domination complète des Espagnols sur le terrain, mais malgré tout, on était au bout de notre siège. Parce qu'à 0-0, tu sais jamais ce qui va se passer. Puis tu sentais lentement que plus le match avançait et plus l'Espagnol dominait, en fait, plus on savait comme pas trop ce qui allait se passer. Parce que l'Argentine, ils nous ont montré à maintes et maintes reprises pendant ce tournoi-là que peu importe à quel point il était dans les câbles, peu importe à quel point il était dans une situation difficile, il trouvait toujours une façon de revenir.
Ouais.
Alors la tension qui montait, le suspense qui se bâtissait, une première demi un peu sans histoire, quelques bonnes chances de marquer pour l'Espagne, mais rien de significatif. Deuxième demi, encore une domination nette, et là, Enzo Fernandez qui se fait expulser de la rencontre, deuxième carton jaune, une faute complètement stupide, puis tu te dis, ben là, c'est fini, là. C'est fini, il n'y a aucune chance que l'Argentine revienne dans ce match-là. Ils font rien à 11 contre 11, ils vont faire quoi à 10 contre 11? On finit par se rendre en prolongation. Nico Williams se fait refuser un but. Lamine Yamal passe près de marquer à plusieurs reprises, notamment un coup franc tout simplement magnifique, mais on se dit encore au fond de nous, écoute, c'est 0-0. Puis s'il y a une chose que l'Argentine puis que Messi ont prouvé jusqu'à maintenant, c'est qu'ils sont tout le temps capables de sortir un lapin de leur chapeau. Et c'est pour ça que le but de Ferran Torres, là, le soulagement chez les Espagnols.
On l'a vu tout de suite avec la célébration, toute l'équipe qui sont allés le voir. Honnêtement, ça a été l'histoire de la partie. L'Espagne qui a continué à mettre de la pression et de la pression et de la pression par rapport aux Argentins, mais ça a été aussi de voir à quel point le gardien de but argentin Martinez a fait la différence dans cette partie-là, parce que des chances de marquer, il en manquait pas dans cette partie-là pour les Espagnols.
Ah, sans lui, ça finit
Martinez
4-0.
A fait plein d'arrêts, oui. Notamment sur le coup franc de Lamine Yamal, oui. Et par la suite, c'est ça qui est difficile avec l'Argentine. C'est que, vu que c'est toujours serré, vu que le score est toujours là, il est toujours à égalité, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'on est à une opportunité. Ouais. De marquer du côté de l'Argentine.
Sauf que là, le problème, c'est que, regarde, tu peux le faire contre le Cap-Vert, tu peux le faire contre l'Égypte, tu peux le faire contre la Suisse, contre l'Angleterre. L'Espagnol était de loin, du début à la fin, la meilleure équipe de ce tournoi-là.
Ouais.
J'ai quelques chiffres hier. La possession, 65-35 en faveur de l'Espagne. Les passes, 762 à 358.
Ça a aucun
sens. Ils ont fait deux fois plus de passes. Dans les 120 premières minutes de jeu, le temps réglementaire, les deux périodes de prolongation, aucun tir de l'Argentine. Leur premier tir est arrivé dans le temps supplémentaire de la dernière période de prolongation.
Ça, c'est fou.
Pendant ce temps-là, l'Espagne ont fait 20 tirs, dont 12 cadrés. Puis pour les buts attendus, 1.94 contre 0.17. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont à peu près rien généré en attaque, les Argentins, puis que les Espagnols, en théorie, auraient dû marquer presque deux buts.
Exact.
Ça a été une leçon de football, mm-hmm. Une domination claire, nette et précise.
Ouais, et puis en même temps, tu sens aussi que l'Argentine attendait l'erreur espagnole pour profiter. Moi, c'est ce que j'ai perçu. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont bâti toute leur Coupe du Monde, Ali. On va profiter d'une faute pour ensuite capitaliser. L'affaire, c'est que l'Espagne ne faisait pas d'erreur. Elle était en plein contrôle.
Mm-hmm.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a senti peut-être un peu plus ce sentiment d'urgence, d'être intimidé du côté de l'Argentine, de jouer dans la tête. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'Espagne savait exactement ce qu'elle faisait.
Du début jusqu'à la fin. Ça a été défensivement une classe de maître.
Ouais.
De la part des Espagnols. En 8 matchs, ils ont seulement accordé un but. Ça, c'est un record là, pour une équipe qui remporte la Coupe du Monde, de jouer aussi souvent et d'accorder si peu de buts. C'était un but contre la Belgique, si je me souviens bien, un peu plus tôt dans la phase éliminatoire. Ils terminent donc avec 14 buts pour et un but contre. Puis ce qui est fascinant avec cette équipe-là espagnole, c'est que c'est vraiment le collectif qui a le dessus sur l'individu. C'est la façon dont on joue ensemble. Il n'y a personne qui se croit meilleur que le reste du groupe. On respecte à la lettre le plan de match, le schéma de jeu de La Fuente. On est hyper agressif, autant défensivement que dans le pressing offensif. Le ballon circule énormément avec des passes rapides. Puis là, si on se dit ce matin, c'est qui le MVP du tournoi pour l'Espagne? C'est qui celui que, hey, c'est vraiment à cause de lui qu'ils ont gagné? C'est impossible de le dire.
Non.
C'est impossible. Tu peux pas mettre le doigt sur un joueur en particulier. Rodri a gagné le prix de MVP du tournoi parce que t'es obligé d'en donner un.
Exact. Mais il a connu
C'est peut-être le meilleur
aussi.
Milieu défensif au monde. Il a été excellent, mais en défense, t'as un gars comme Cucurella qui était dans la face aux Argentins tout au long du match, puis que tout le long du tournoi, il a été une menace. Oyarzabal a quand même marqué 5 buts pour eux. Hier, ils l'ont sorti. Ils n'ont pas eu besoin de lui pour aller battre l'Argentine. Lamine Yamal a connu des hauts, des bas dans ce tournoi-là. Nico Williams, quand il rentrait chaque fois, ça a été vraiment une bougie d'allumage. Leur coach, vraiment toute une performance de sa part dans ce tournoi-là. Moi, c'est ça que j'adore avec cette équipe-là. C'est que contrairement peut-être à d'autres formations dans la Coupe du Monde où tu avais vraiment l'impression qu'on reposait sur certaines vedettes, c'était pas le cas pour l'Espagne.
Mais non, on l'a vu tout de suite avec la France. T'sais, la France a été, je pense, ben un oui. des exemples numéro un, ce qui a fait en sorte qu'ils ont eu le résultat escompté, malheureusement, pour eux. Là, parce
ben
que...
oui, ou la Norvège, qu'une fois que Erling Haaland s'éteint, ben, c'est fini, merci, bonsoir.
Ouais, exactement, exactement. Puis, tu suivais un peu rapidement, là, tu suivais un peu la petite finale qui a eu lieu samedi, là, puis tu voyais que... Ouais, finalement, c'était un peu décousu, puis que là, oui, il y avait beaucoup de talent, parce qu'il y avait l'émotion qui était derrière ça, la volonté de vouloir sauver sa réputation, si tu veux, autant pour l'Angleterre que pour la France, mais revenant à la grande finale, c'est ça. C'est l'effort collectif qui a été capable de remporter ce tournoi-là, puis en même temps, ça va faire place aussi à la maturité de Lamine Yamal lorsqu'il va arriver à sa prochaine Coupe du Monde. Elle ouais. est vraiment le vrai leader de cette équipe espagnole-là. Et d'ailleurs, on s'en parlait en dehors des ondes, mais la finale a clairement été un de ses meilleurs matchs du tournoi. Là.
Ouais, parce que c'est un gars qui, par moment, ben, en fait, il est arrivé dans le tournoi blessé. Donc, au début, dans la phase de groupe, il était pas dans les partants. On l'intégrait un petit peu plus tard dans la partie. Donc, ça lui a pris du temps, je pense, dans ce tournoi-là, à être à 100%, mais il n'a pas été aussi menaçant que ce qu'on pensait, parce que après son euro fantastique en 2024, où il avait été peut-être le joueur le plus dominant de la compétition, après tout ce qu'il a accompli au FC Barcelone, là, il est arrivé dans ce tournoi-là, puis on avait des attentes super élevées. Ah, là, on disait, oh, ouais. Yamal dans la même catégorie que bon Mbappé, Harry Kane, Messi, tout ça. C'est peut-être pas ça qu'il a fait, mais faut pas oublier que il a eu 19 ans la
c'est
semaine passée.
19 ans, exactement.
On se calme, mais... Tu sais, on l'a un peu vu d'une certaine façon hier. Une belle métaphore avec la passation du flambeau. Là. Je veux ouais. dire, c'était une des histoires à la fin de ce match-là. C'est que tu as Messi, qui est le meilleur joueur de l'histoire, sans aucun doute, à ce qui est probablement ou ce qui est peut-être sa dernière Coupe du Monde. Ben, il perd contre le gars qui, un jour, sera peut-être le visage du soccer à travers la planète.
Exact.
Après ça, retour dans le temps, retour en 2007, la fameuse photo qu'on a vue toute la fin de semaine, où Lamine Yamal bébé qui se fait donner un bain par Messi. C'était vraiment fort d'imagerie. Là. Il y avait des belles métaphores à faire avec cette passation du flambeau-là entre Messi et Lamine Yamal.
Ouais, exactement. Puis il y a aussi l'aspect de l'ex-champion au nouveau champion. On a quand même fait en sorte que l'Argentine ne gagne pas deux Coupes du Monde consécutives. Il y a eu ça aussi là-dedans. Puis, ben le fait à considérer, justement, que c'est le meilleur au prochain, moi, je trouve ça super symbolique. Et on voyait aussi, naturellement, on sentait la tristesse de Lionel Messi.
C'était tough, ça.
Ouais. À 39 ans, c'est sûr, tu connais le meilleur tournoi de ta carrière, meilleure Coupe du Monde de ta carrière à 39 ans. C'est sûr et certain que, dans ta tête, tu t'es dit, j'ai donné le meilleur effort pour donner une chance à mon pays. Mm-hmm. Mais encore une fois, toute chose a une fin, tu sais. Puis en ce moment, ça a été ça. La réalité a fait mal pour l'Argentine.
La réalité a fait mal, puis c'était pas facile de voir ces images-là de Lionel Messi, très, très, très émotif à la fin du match. En fait, plus la Coupe du Monde avançait, puis plus on le sentait émotif, là, c'est fort probablement sa dernière, puis il a lancé tout un message au reste de la planète pour sa dernière Coupe du Monde. 8 buts, 4 passes. Même s'ils n'ont pas gagné le tournoi, c'est sûrement sa meilleure performance, des remontées qui n'avaient aucun bon sens. Là, on se disait que l'Argentine, c'était fini face à l'Égypte. Il perdait 2-0. Messi, il dit « Ah non, 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 watch out, regardez ce que je vais faire. » Il gagne 3-2. Même chose contre l'Angleterre la semaine passée en demi-finale. Ce qu'il a été capable de faire à 39 ans, c'est historique. On va s'en rappeler longtemps.
Ouais.
Hier, c'est juste dommage. Il a été un non-factor. T'sais, crédit aux Espagnols de l'avoir complètement isolé. Il touchait à peu près pas au ballon. Quand exact. Il touchait au ballon, il y avait directement quelqu'un sur lui. Puis ça fait qu'on l'a pas vraiment vu jusqu'à la toute fin du match, quand là, évidemment, ben, l'Espagne, il parquait le bus, puis il disait « OK, ben, tirez,
faites
faire
ce
des
voulez,
jeux
en
de
fait.
Loin, puis de toute façon, on donnera rien dans la surface de réparation. » La seule chose que je me dis, c'est que, regarde, on a vu à quel point il est en forme encore. Fait partie encore de l'élite mondiale. La Coupe du Monde de 2030, il va avoir des matchs en Argentine. C'est la Coupe centenaire, là. Ça va faire les 100 ans de la première Coupe du Monde qui a eu lieu en 1930. Alors, le tournoi en soi sera majoritairement disputé au Portugal, en Espagne et au Maroc.
Exact.
Mais il va avoir aussi des matchs centenaires en Argentine, en Uruguay et au Paraguay aussi, parce que c'est là où la première Coupe du Monde avait eu lieu. Fait que vu qu'il va avoir un des matchs en Argentine, est-ce que ça pourrait l'encourager à peut-être être là, puis attendre 4 ans de plus? Peut-être, je le souhaite, là, parce que on n'en reverra pas un autre, Lionel Messi.
Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Puis écoute, il est capable de. Il est capable de pousser sa loque juste là. Bah, allez-y, tu sais. Je pense que Messi aussi est dans une situation où c'est vraiment à lui de décider qu'est-ce qui va se passer, à lui de voir à quel point il veut encore en donner. Et on peut pas dire qu'il a pas été là de A à Z, mais je suis d'accord avec ce que tu dis comme quoi on lui a pas laissé d'espace, mais en même temps, ça a été depuis le début du tournoi le joueur qui a juste saisi une opportunité. Il a jamais eu d'opportunité et il a été capable de canaliser son énergie au bon moment lorsque ça comptait. Et là, l'Espagne n'a rien donné.
Donc... Ah, parce que l'Espagne était la meilleure équipe de ce tournoi-là, même pas proche.
Non,
c'est vraiment historique ce que le programme espagnol est en train de bâtir. Là, parce que si tu te rappelles, au tournant des années 2010, ils ont eu leur run Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012.
Ouais, ça a été.
C'est un petit peu la même chose qu'ils sont en train de faire. Là. Ils ont gagné l'Euro en 2024. Là, ils viennent de gagner la Coupe du Monde. Sont à 38 matchs de suite sans défaite. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas perdu sur la scène internationale. Ça, c'est un record.
C'est fou, ça.
Et à travers tout ça, c'était quand même la cinquième plus jeune équipe à la Coupe du Monde.
C'est ça.
Fait qu'eux, là, à l'Euro dans deux ans, puis à la Coupe du Monde dans quatre ans,
ils sont
ça va être
là,
essentiellement le même groupe.
Exact.
Avec quelques ajouts ici et là. Oui, tu vas avoir des joueurs qui sont vieillissants, mais ça te montre que c'était pas une équipe... « Ah, c'est leur dernière chance. » Non, non. C'est une génération hyper talentueuse qu'on a réussi à bâtir au fil des années en Espagne. Et en plus, Coupe du Monde de 2030, j'en ai parlé il y a quelques instants, elle va être jouée en Espagne. Alors, il y aura énormément de fierté nationale. Mm-hmm. Crédit à Luis de la Fuente d'avoir bâti ça.
Ça
parce que ça va être une période très creuse pour l'Espagne après cette fameuse génération dorée de 2008, 10 et 12.
Ouais, exactement. Et il a tellement bien fait, Luis de la Fuente, pour rétablir une mentalité, établir un système de jeu qui marche et de pouvoir contenir quand même beaucoup de, comment qu'on pourrait dire, de star power dans cette équipe-là pour être capable de garder la même directive et d'arriver à notre but. Et ça, comme tu l'as dit, vu que l'équipe est super jeune, c'est quelque chose qui va rester. Parce
non,
que
oui.
Du moment où tu remportes un championnat en tant qu'équipe, t'as un moment marquant. Mais il y a des affaires que tu conserves en tant que joueur, de la manière que t'as joué, des émotions que t'as senties quand t'as exécuté des jeux qui marchaient. Et ça, tu peux amener ça dans les prochains tournois internationaux. Et c'est exactement ça qu'ils vont faire, l'Espagne.
Par contre, du côté de l'Argentine, c'était dommage, mais on a senti qu'il était vraiment à court de magie. Là.
Ouais.
Que le fameux retour miraculé, c'est correct de faire ça contre le Cap-Vert, puis... Tu peux faire ça à la limite contre l'Angleterre qui sont des chokers comme ça n'a pas de bon sens. Là, on dirait qu'ils aiment ça choker tellement qu'ils le font souvent. Tu peux pas faire ça face à une équipe aussi dominante que celle de l'Espagne qui te donne si peu d'espace, si peu d'occasions de qualité. Tu l'as mentionné plus tôt, une chance que le gardien Emiliano Martinez était là parce qu'il y a des arrêts sensationnels. Il y en a eu plusieurs, sinon ce match-là aurait même pas été proche. Mais il faut le dire aussi que le rouge complètement stupide, ça a vraiment été le dernier clou dans le cercueil des Argentins. C'est très difficile de revenir dans un match où déjà tu joues pas bien, s'il te manque un joueur. J'ai pas aimé nécessairement leur réaction non plus à la fin du match, là, quand le coup de sifflet final a été donné. Il y a une espèce de mêlée sur le terrain, des joueurs qui se chamaillaient. Il y a même un Argentin qui a étranglé un Espagnol. Finalement, Paredes a été expulsé, tu sais. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde. Laisse-les gagner avec classe. Là.
Exact. Ça fait passer aux réactions des Suédois au championnat mondial de hockey junior il y a quelques années où Elias Anderson avait lancé sa médaille d'argent dans la foule.
Ouais.
Il y avait une mauvaise...
que là, il était juste vraiment mauvais perdant.
Ouais,
là, ils sont littéralement en train de s'en prendre à l'autre équipe qui veut juste célébrer.
Exact. Exact. Non, je sais. C'est clairement une défaite qui était difficile à accepter. Mais encore une fois, sois la plus grande personne, réagis de façon mature comme ça. C'est juste pas entacher ta réputation là,
non.
Sur l'échelle internationale.
Parce que surtout que, disons, l'Argentine, de façon générale, là, leur équipe, c'est pas nécessairement celle qui est la plus appréciée par les fans de soccer à travers le monde. Là. Ils ont une certaine, peut-être, arrogance ou certaine attitude que plusieurs personnes aiment pas. Fait que là, en plus, si tu réagis de cette façon-là à la fin d'un match, c'est pas cool. C'est juste une mauvaise attitude, personne ne veut voir ça
exact.
Dans le sport. Pour la première fois de l'histoire, on a eu un spectacle de la mi-temps à la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde aux États-Unis, fallait s'y attendre. Moi, j'ai vraiment pas aimé. J'espère que ça reviendra pas dans 4 ans. Donc, pour ceux qui ont eu la bonne décision de fermer la télé, ça a commencé avec la bonne vieille Madonna qui est sortie. Elle a fait un numéro avec Ronaldo et Ronaldinho. Ensuite, on a eu le groupe coréen BTS. Ted Lasso a introduit Justin Bieber qui a fait une chanson qui avait aucun rapport, là, une espèce de solo à la guitare qui pour moi fit pas du tout dans ce que tu veux faire avec un spectacle de la mi-temps. Shakira et Burna Boy sont venus performer la chanson de la Coupe du Monde 2026. Visuellement, j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Il n'y avait pas nécessairement la qualité de la mise en scène qu'on voit au Super Bowl, par exemple. Avec les plans de caméra, on avait pratiquement l'impression que c'était un écran vert derrière. Évidemment, c'était clairement du lip-sync. Moi, j'ai pas aimé. Tous les goûts sont dans la nature, puis c'est bien correct si vous avez aimé ça. Mais personnellement, je me serais bien passé d'une plus courte mi-temps, puis pas de show de la mi-temps.
Ouais, c'est ça qui arrive là, souvent quand tu essaies d'en faire trop, c'est comme pas assez par moment. Et là, on dirait qu'il y a eu tellement une accumulation de... Puis c'est correct, là, t'as amené des gros artistes, des gros noms... Tu voulais aller rejoindre toutes les parties du monde, tu sais.
Oui.
Mais, tu sais, on a eu cet effort-là. Le petit clin-là à Ted Lasso qui a été excellent aussi. Mais encore une fois, je pense que dans la décision de. Dans du choix de chanson ou quoi que ce soit, puis on n'est pas des experts de programmation,
non,
de spectacle, quoi
pas,
que ce soit. Là,
mais on est des fans de sport. Ouais, on a
exactement.
Vu notre lot de shows de la mi-temps.
Exactement.
Puis c'est clairement l'américanisation de la Coupe du Monde, la FIFA qui se poursuit. La fameuse pause d'hydratation qui est une pause télé masquée. Ça, c'en est un autre exemple. Sauf qu'à la différence entre, disons, le Super Bowl, où je comprends pourquoi il y a un show de la mi-temps, t'essaies d'aller chercher un autre public qui s'intéresserait peut-être moins au match.
Ouais.
En soi, et la Coupe du Monde, la finale, c'est déjà l'événement le plus écouté. Il y avait déjà des milliards de personnes qui écoutaient ça hier.
Ouais,
t'as pas besoin d'un show de la mi-temps pour aller chercher un autre public.
Non, là c'est pas mal étirer la sauce. Pas mal.
Oui.
C'est ça qui s'est passé.
Ouais. Parlant d'étirer la sauce, il y en a un qui avait pas compris son rôle à la fin du match d'hier. Donald Trump qui est allé s'incruster dans la célébration espagnole. Alors le président de FIFA qui arrive pour donner le trophée aux Espagnols. Et Donald Trump est là avec lui. Puis quand l'Espagne arrive pour soulever le trophée, pour prendre leur photo ensemble sur une espèce de petite scène comme on voit toujours dans le monde du sport, ben Trump il reste là. Il reste à côté d'eux. Il se fait demander de sortir. Puis non, il refuse. Fait que là, tu vois plein de photos de l'Espagne qui sont là en train de célébrer avec leur trophée, puis Trump est là.
Ah ouais. Ça a fait le tour, ça. Je l'ai vu partout.
Faut que tu saches c'est quoi ta place, là.
Ouais, exactement. Je comprends là, la fierté que ça s'est passé aux États-Unis, puis qu'au final, les gens ont apprécié l'organisation ou quoi que ce soit, mais come on, man. T'es pas espagnol, là.
Ben,
va-t'en, là.
Juste de façon générale... Tu vois jamais ça, là.
Jamais.
Il est pas là au Super Bowl en train de célébrer avec l'équipe championne.
Ben non, là.
Tu sais, je veux pas parler de politique. C'est pas notre place ici pour faire ça. Mais pour moi, c'est un nom qui est revenu trop souvent dans ce tournoi-là.
Surtout avec la polémique.
La polémique de Balogun. Le pays hôte, que ce soit son président, son premier ministre, son roi, tu ne devrais pas entendre parler de lui pendant le tournoi. Il ne devrait pas s'immiscer dans la compétition par des décisions, par des controverses ou par être sur le terrain quand il y a des célébrations. Mais bon, ça fait partie du personnage qu'on connaît tous très bien maintenant. D'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, on va revenir sur cette finale de la Coupe du Monde avec nos experts soccer. Sidney Faureau qui va venir faire un tour, ainsi que Olivier Brette, comme à l'habitude. On va prendre une courte pause au retour. Il y a quelques nouvelles dont je veux vous parler dans la NFL. Peut-être la plus grande légende de l'histoire du sport est en train de se ridiculiser en ce moment. Je trouve ça gênant à voir, sérieux. Je vous raconte les détails au retour.
C'est l'événement de l'avenir commence maintenant de Hyundai. Je veux de la grosse offre sur le terrain. Marie-Lou, plan de match.
On entre en jeu avec le Tucson Preferred Attraction Intégrale 2026 en location à 99 $ par semaine et 0 $ d'acompte.
Oh, j'aime ça.
Puis on surclasse à la version hybride pour seulement 14 $ de plus par semaine à la location.
Continue.
On les assomme avec la garantie sur véhicule neuf de 5 ans de Hyundai. Puis on joue ça à domicile dans tous les concessionnaires Hyundai.
Allez!
Location de 60 mois au taux de 4,19%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playaudio.net avec toutes vos machines à sous et jeux de casino préférés comme Jungle Beast et Sugar Rush. En plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné!
Wouhou! Sentir le plaisir, Playaudio.
Chérie, oublie la lasagne, on doit fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de jeu d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
Expérience Matin. À seulement une heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au expériencematin.ca.
Allô? Vous étiez dans la lune? Vous étiez rendu loin, là, hein? Avouez, vous étiez déjà en vacances sur les routes du Québec avec votre Kia Seltos, l'attraction intégrale, l'espace de chargement, les aides à la conduite. Vous étiez peut-être même rendu assez loin pour vous arrêter manger une poutine à trois pistoles. Ben, vous avez bien fait. Partez loin, loin cet été, pour vrai, en Kia Seltos. Profitez de taux avantageux à la location et au financement. Détails à kia.ca. Kia. Du mouvement vient l'inspiration.
Déménager, c'est déjà beaucoup. Heureusement, avec Sonnet, vous pourriez économiser plus de 800 $ sur vos assurances, habitation et auto. C'est simple, rapide et entièrement en ligne. Pour moins de stress et plus d'économies, déménagez chez Sonnet Assurance.
Cette semaine, dans la circulaire Super C, la chopine de bleuets est à 1,95 puis les bistecs de côte sont à 9,88 la livre ou 21,78 le kilo. Hey, le meilleur coup de l'été, c'est Super C. Valide jusqu'au 22 juillet en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
C'est la saison des cornets chez McDo. Les cornets à la vanille sont à seulement 1 $ plus taxe tout l'été. Et nos cornets vont vous faire craquer. Seulement 1 $ plus taxe, exclusivement sur l'appli McDo. Téléchargement de l'appli et inscription requis dans les McDo du Canada participants.
MAP Hydration, la boisson électrolyte à base de sirop d'érable pur, des électrolytes essentiels et des BCAA. Naturel, efficace et fièrement d'ici. Pour performer, récupérer ou simplement mieux t'hydrater, choisis MAP. Visitez maphydration.com.
Rends-toi à job avec ta première ligne d'attaque. Le Club du matin. Jusqu'à 10h sur BBM Sport.
Ready?
Let's go! Touchdown!
Ready, set, BPM!
Le Focus NFL.
Vous avez peut-être vu cette vidéo-là circuler sur les réseaux sociaux cette fin de semaine. Tom Brady a donné une claque en plein visage à Logan Paul sur une scène. Ça s'est passé sur un panel du Fanatics Fest à New York, qui est un espèce de festival organisé par la compagnie d'équipement sportif Fanatics. Donc, il y a eu un espèce d'échange musclé entre les deux, une confrontation vraiment. Ils se parlaient de façon très, très intense. Et là, au final, Tom Brady qui sacre une volée, une claque en plein visage au YouTuber Logan Paul, Carl Anthony Towns, le joueur de la NBA, qui doit les séparer. On aurait dit une scène des Simpsons, là, ça n'a aucun bon sens.
Ça avait l'air une conférence de presse de boxeur.
Ouais.
Pour vrai.
Ben, on y revient dans un instant. Ce qu'on a compris par la suite, Paul dit qu'il était en train de narguer Tom Brady parce qu'il avait battu au flag football. Et il dit que Tom Brady est un mauvais exemple pour les enfants. Ensuite, sur les réseaux sociaux, ben, Tom Brady a traité Logan Paul de nerd et il a promis aux Américains que la prochaine fois, il va l'avoir. La prochaine fois, il va s'occuper de Logan Paul. Là, hier, j'ai même vu, pendant la finale de la Coupe du Monde, les deux étaient là, puis ils s'envoyaient des doigts d'honneur dans des loges.
Pas de sens.
J'espère que j'apprends rien à personne en ce moment. C'est clairement arrangé, là. C'est clairement stagé, toute cette histoire-là. On essaie de bâtir un momentum pour un événement quelconque parce que ça fait plusieurs mois, en fait, que Tom Brady et Logan Paul, ils s'échangent des pointes en public.
Mm-hmm.
Ils ont fait des affrontements de flag football, puis là, Logan Paul a dit que c'était un meilleur athlète que Tom Brady, puis que les joueurs de football, puis là, depuis ça, ben là, on est parti en peur avec tout ça. Même la WWE et la NFL ont partagé la séquence. Fait clairement, on prépare une espèce d'affrontement. Est-ce que ça va être un combat de lutte? Est-ce que Tom Brady va se joindre à la WWE? Est-ce que ça va être un des fameux combats de boxe de célébrités qu'on voit si souvent maintenant. Tom Brady, en fin de semaine, je l'ai même vu faire une entrée du Undertaker. Il est sorti du cercueil, là, il a frappé quelqu'un avec une chaise. Regarde, je vais peut-être paraître un petit peu dépassé, là, mais je suis désolé, mais Tom Brady est au-dessus de ça.
Ben oui.
Tom Brady, c'est le GOAT. C'est le meilleur joueur de football de l'histoire. C'est le corps arrière le plus dominant de l'histoire de la NFL. Sa réputation, elle est à peu près immaculée, là. La plus grosse controverse qu'il y a eu, c'est peut-être le Deflategate, mais avec le recul, c'est extrêmement stupide comme situation, puis ça méritait pas de prendre l'ampleur que ça a pris. Tom Brady, là, ça a toujours été un bon gars. Il s'est jamais mis dans le trouble. Il a toujours dit la bonne chose. A jamais eu de controverse vraiment marquante liée à son nom. Oui, on a été plusieurs à le détester parce qu'il était tellement bon, puis il pouvait être arrogant par moments, là. Mais c'est un GOAT. On le met dans la catégorie des Michael Jordan, puis des Wayne Gretzky, puis des Tiger Woods, de l'athlète le plus dominant de son sport. Il est au-dessus de ça. Qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent que tu as eu dans ta carrière, tout le succès, toute ta notoriété, à te pogner sur la place publique avec un YouTuber? T'es meilleur que ça.
Mais c'est vrai, puis t'as raison. On dirait que il a tellement rien fait de mal, ça a toujours été une page blanche. Très que là, c'est comme, OK, là, je prends ma retraite, j'ai la réputation.
Comme l'enfant parfait, là.
C'est ça.
Toute sa vie, je le sais pas, toujours eu des super bonnes notes à l'école, jamais eu de retenue, si ça, puis là, tu lui donnes un petit peu de liberté, puis fait plein de niaiseries.
Mais c'est ça qui arrive, tu sais.
On dirait que c'est ça qui est en train de se passer avec lui.
Ouais.
Là, il s'est divorcé, il joue plus au football, puis il sait plus quoi faire. Fait que il n'a rien d'envoyer des fingers à la Coupe du Monde à Logan Paul.
C'est ça, ça a aucun sens. T'es le meilleur de tous les temps dans ton sport.
C'est ridicule, ridicule à voir, sérieux.
C'est comme si Wayne Gretzky commençait à faire plein
T'aurais
de choses.
T'aurais jamais
dans
vu ça.
Ouais.
Tu verrais jamais Michael Jordan en train de faire ça.
Non, c'est ça.
Ces athlètes-là ont une certaine prestance.
Ouais, t'as raison.
Ils ont un aura autour d'eux où, écoute, ils sont au-dessus de nous, là.
Ouais, 100%.
De par leurs accomplissements, de par tout le travail qu'ils ont mis, ce sont des êtres humains exceptionnels. Tom Brady fait partie de cette liste-là.
Ouais.
Tom Brady, c'était pas le plus talentueux, c'était pas le plus athlétique, mais il a tellement travaillé fort, il avait tellement une mentalité acharné qui a été capable de se démarquer.
Ouais.
Mais là, il est en train de se rabaisser.
Exact.
Je trouve ça dommage à voir, là. Puis malheureusement, on va être pogné à un moment donné pour garder un show de lutte ou de combat de boxe entre Logan Paul et Tom Brady. Une autre scène virale qu'on a vue cette fin de semaine au Fanatics Fest, et ça, si vous êtes un fan des Giants, vous l'avez pas aimé, Cam Scarabou, leur porteur de ballon, monte sur scène, décide de faire un backflip. Il rate, il plante, il est pas capable de l'atterrir comme du monde. Le problème, c'est que Cam Scarabou, il se remet d'une fracture au tibia et à la cheville qui s'était cassée cet automne. On s'entend, pas fort du tout, le chef. Écoute,
non.
Ça aurait pu être l'enfer. Là, finalement, son agent est sorti sur les réseaux sociaux en disant « Non, il s'est pas blessé, il va vraiment bien, il est en pleine forme, il se blesserait jamais avant le début de la saison. » Qu'est-ce que tu fais? Ça aurait pu vraiment mal finir, ça.
Vraiment, on sait, tu sais, on comprend là, un peu la mentalité de Cam Scarabou, Jackson Dart, les gars qui ont beaucoup de personnalité au sein des Giants, qui fait en sorte qu'il y a une attention qui est un peu plus vers cette équipe-là, envers cette équipe-là. Mais effectivement, t'as raison, genre tu fais quoi? Tu viens de te blesser sérieusement, t'as raté une grande partie de la saison, t'es comme oublie
parce
ça, là.
Sois
mature.
Cam Scarabou, c'est déjà quelqu'un qui a un gros historique de blessures, là. Commotion cérébrale notamment. Il est spectaculaire à voir aller. Il a pas peur du contact. Mais t'es un athlète professionnel. Il y a certaines choses que tu peux faire, que tu peux pas faire. Ça en fait partie.
Ouais.
Tu imagine si il avait raté encore plus, puis il s'était recassé la cheville, ça aurait été catastrophique. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont sorti ça, mais il y a plusieurs années, quand John Harbaugh, qui est le nouveau coach des Giants, coachait les Ravens, puis que Joe Flacco était son corps arrière, à Mané, il avait pogné les nerfs parce que Joe Flacco avait fait du skateboard.
Non, c'est ça.
Fait qu'imagine voir ton porteur de ballon partant faire un backflip sur scène, puis pas être capable de l'atterrir.
Piraté, ça fait peur, là.
Il devait capoter, son agent devait capoter.
Ben oui.
Les Giants, en tout cas.
Tu fais peur à tout le monde, arrête.
Oui.
Là. Arrête.
Puis j'ai aussi vu une dernière petite nouvelle NFL passer dans les derniers jours. Plusieurs joueurs vedettes de la ligue, Caleb Williams, George Kittle, Laremy Tunsil notamment, une dizaine d'autres, là, qui ont publié des photos en ligne où tu vois un gazon naturel se faire couper avec le hashtag worth the cost. Mm-hmm. Ça vaut le coup, ça vaut la peine. Pourquoi? Ben, c'est parce que, comme vous le savez, dans la NFL, c'est pas tous les terrains, tous les stades qui ont du gazon naturel. T'as une certaine proportion que c'est du naturel, mais t'as une autre proportion que c'est du terrain synthétique. Sauf que là, pour la Coupe du Monde, il y a plein de stades qui normalement ont du gazon synthétique où la FIFA a obligé les stades à y mettre du gazon naturel parce que pour la Coupe du Monde, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de négociation, ça doit être du naturel. Fait que par exemple, hier, au MetLife, où on a eu la finale, puis où les Giants et les Jets jouent normalement, c'est du synthétique. Il y a plein de joueurs qui se blessent à cause de ça, mais hier, c'était du naturel. Mm-hmm. Mais malgré tout, ces terrains-là, comme le MetLife, eux, quand la saison de la NFL recommence dans quelques semaines, ils vont retourner au synthétique.
Ouais.
Fait que là, évidemment, les joueurs sont pas contents parce que le risque de blessure est beaucoup plus élevé. C'est 7 terrains de la NFL qui ont habituellement du synthétique, qui ont eu du naturel pour la Coupe du Monde, qui vont retourner au synthétique. Et donc là, il y a plusieurs joueurs qui sont très vocaux dans leur demande. « Hey, pouvez-vous arrêter de niaiser, mettre un petit peu plus d'argent pour essayer de nous sauver? » Parce que c'est un peu ridicule, là. Année après année, puis il y a des terrains qui sont définitivement pires que d'autres, mais on voit des joueurs qui se blessent à cause de la piètre qualité du terrain synthétique, puis j'espère que ça va changer un jour.
Ouais, c'est sûr, puis en même temps, je veux dire, le débalancement du terrain, ça a vraiment un gros impact sur comment aussi tu perçois les jeux, comment tu anticipes. Et effectivement, les blessures sont liées avec ça, ça a l'air de rien. On va toujours dire que le synthétique va toujours avoir un certain avantage comparativement au naturel, mais c'est pas vrai. Pour certains, c'est vraiment plus le terrain naturel que tu aimes. Surtout au soccer, là, j'ai vraiment...
Ben, ou au football aussi.
Ouais, c'est ça. T'sais, t'as une meilleure grip, t'as des meilleures anticipations. Tu glisses moins.
Exactement. Alors, ça va être à suivre. La NFL, on va en parler de plus en plus d'ailleurs. Les camps d'entraînement qui commencent très bientôt. On va avoir le match du Temple de la Renommée. Ça arrive à nos portes, la NFL. Moi, j'adore la NFL. C'est une de mes ligues préférées. On va en parler pratiquement tous les jours d'ici la fin de l'été.
Ça va être bon.
Dans le club du matin. Mais pour le moment, on y va d'un sport flash avec Hugo Reich.
Sport flash.
Ouais, donc effectivement, il y a eu beaucoup d'événements sportifs, notamment le British Open au golf. C'est Ryan Fox, l'Australien, qui l'a remporté avec une fiche de moins 10. Il a joué une carte de 68 lors de la dernière journée de compétition. Mais le plus impressionnant, Ali, c'est celui qui a terminé deuxième, l'Américain Cameron Young, qui a connu tout un dimanche. Remis une carte de 64 pour s'immiscer au deuxième rang à moins 9.
Et évidemment, il y a eu une grosse controverse aussi en lien avec Bryson DeChambeau vendredi qui s'est fait retirer deux coups.
Exact.
Pour avoir changé... il a pilé sur du gazon, ça aurait altéré la trajectoire de son élan. Ça a été une méga controverse dans le monde du golf cette fin de semaine. Il y a des golfeurs qui ont supporté DeChambeau, il y en a d'autres qui ont été comme « Non, non, lui, il veut juste de l'attention, c'est un hypocrite. » On va parler de ça un peu plus tard à l'émission avec Dan Richard.
Ouais, ça va être super intéressant aussi à noter avec la fin de la Live et tout, Bryson DeChambeau qui a fait partie de cette transition-là. Il y a encore là, des zones grises puis de l'amertume par rapport à ça.
Ouais.
Sinon, dans la NBA, le Québécois Lugens Dort passe aux Hawks d'Atlanta. En fait, lui, en retour, le Thunder va avoir trois choix de deuxième tour. À se rappeler que Lugens Dort était justement très important dans la victoire du Thunder il y a 2 ans. Mais il y a aussi une troisième formation d'impliqués là-dedans.
Ouais, c'est un échange en trois équipes.
C'est les Mavericks de Dallas qui, eux, ont mis la main sur le Français Zachary Risaché, qui a été le premier show total de 2024 dans tout ça.
Ça va faire spécial de voir Lugens Dort sous les couleurs d'une autre équipe. Il a vraiment connu une belle carrière avec le Thunder d'Oklahoma City. Il est passé d'être un gars qui n'a même pas été repêché. S'est établi comme un des meilleurs joueurs défensifs de toute la NBA. Un des rouages importants de leur conquête du titre en 2025, sauf que a beaucoup ralenti, je dirais, dans les dernières années, était beaucoup moins efficace offensivement, mais aussi défensivement, un petit peu moins dynamique qu'il a été. Puis là, le Thunder commence à payer beaucoup de ses joueurs vedettes. Ils ont besoin de sauver de l'argent. Malheureusement, ben, Lugens Dort, c'est un peu la première conséquence de tout ça.
C'est sûr.
Il va avoir une chance de relancer sa carrière avec les Hawks d'Atlanta.
Exact.
Alors que pour les Mavericks de Dallas, Zachary Risaché, écoute, premier choix au total, il y a 2-3 ans à peine.
24, ouais.
Mais ça, on le savait depuis cette QV-là, depuis que le repêchage a eu lieu, une des pires QV de l'histoire de la NBA. Là. Faites attention, oui, il y a l'étiquette de premier choix au total. C'est pas un joueur de cette qualité-là.
Et finalement, en Formule 1, mais deux petites nouvelles. En fait, Kimi Antonelli qui remporte le Grand Prix de Belgique. On va en parler un peu plus tard, vers 8h20. Et petite nouvelle de dernière minute, Ali. qu'on a réalisé là, durant la pause. Jack Campbell a pris sa retraite au niveau de la Ligue nationale, le gardien Jack Campbell, qui a joué 200 matchs, environ 200 matchs en carrière, 176 plus précisément.
Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu quand même, Jack Campbell. A joué sa dernière saison en 2024-2025 avec les Griffins de Grand Rapids, le club école des Red Wings de Détroit, et dans la Ligue nationale de hockey, sa dernière année, c'était avec les Oilers d'Edmonton, 2023-2024. D'ailleurs, évidemment, les Oilers étant les Oilers, ben, ils ont racheté son contrat et il compte encore sur la masse salariale de l'équipe. Alors, une autre mauvaise décision qui revient hanter les Oilers, mais quand même, Jack Campbell, là, après avoir déçu pendant longtemps la fameuse étiquette d'un très haut choix au total, a de beaux moments, disons.
Une carrière respectable. Il a quand même eu un pourcentage d'arrêt en carrière de 910 quasiment.
Il a juste joué 176 matchs, mais écoute, il s'est mérité un gros contrat avec les Oilers.
Ouais,
tant mieux pour lui. On va prendre une courte pause. Au retour, c'est les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis 2000. Et au retour, on revient sur une des transactions les plus controversées de l'histoire de l'équipe. Vous étiez soit d'un bord, soit de l'autre.
Cette semaine, dans la circulaire Super C,
la chopine de bleuets est à 1,95 puis les beefsteaks de côte sont à 9,88 la livre ou 21,78 le kilo.
Hey, le meilleur coup de l'été, c'est Super C.
Valide jusqu'au 22 juillet en magasin et en ligne. Détails au superc.ca.
Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle. C'est un grand artiste québécois sur scène. Le 7 août prochain, le grand Kevin Parent sera sur place. En septembre, La Chicane, avec ses plus grands succès. Le 2 octobre, un gars de chez nous, Vincent Lemire. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas la combler avec votre journée de golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
Mon offre extra à la SAQ, c'est quoi? C'est une offre exclusive et personnalisée, créée selon vos préférences, peu importe vos goûts. Par exemple, Vincent, qui aime le vin blanc, accumule des points bonus sur ces vins-là avec mon offre extra. Alors que Marika, amateur de vodka, obtient aussi des points bonus sur ces produits-là. Quelle est votre offre extra à vous? Découvrez-la dès maintenant dans votre appli SAQ. Mais faites vite, mon offre extra passera extra rapidement. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
Contracteur peintre, gagnez du temps et de l'argent avec Chez le peintre, l'entrepôt de peinture Sico Expert. Ça fait 50 ans qu'on le chante.
Sico, Sico par-ci, Sico, Sico par-là. On a tous un Sico, Sico par-ci, par-là.
Un stock immense, des prix imbattables et une expertise sur mesure pour vos chantiers. Besoin de peinture là, maintenant? Nous, on est constamment en série. On livre dans un rayon de 75 km avec nos 6 camions prêts à partir. Chez le peintre, prix, choix, expertise.
L'été. Les soirées qui nous font oublier l'heure qu'il est. Les grillades qui parfument la cour. Les meilleurs produits de saison. Ceux qui goûtent vraiment l'été. Cette semaine, Métro vous offre les gros raisins rouges ou verts à 2,44 la livre ou 5,38 le kilo et le beefsteak français de première qualité à 6,88 la livre ou 15,17 le kilo. Difficile de trouver mieux. Métro. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin ou sur métro.ca.
Jusqu'à 10 heures. Fais partie du club. De Montréal, 514-790-0919. Partout ailleurs, 1-888-790-0919. Le club du matin. Sur BPM Sport.
Dans une vingtaine de minutes, c'est Nicolas Saint-Pierre qui s'amène avec nous. On va discuter de la prolongation de contrat monstre que Connor Bedard a signé cette fin de semaine, 5 ans, 75 millions de dollars avec les Blackhawks de Chicago. Mais pour l'instant, c'est les séries éliminatoires des moments marquants du Canadien depuis 2000. Un moment par jour. Et à la fin de la semaine, on va voter pour le finaliste de la semaine. Parmi tous les finalistes de l'année, ben à la fin de l'été, on va avoir un grand tournoi pour déterminer ça a été quoi le moment marquant du Canadien depuis 2000. La semaine passée, le finaliste, le Calder Alain Hutson. Et là, pour aujourd'hui, Hugo, c'est quoi notre moment?
Piqué Souban est échangé.
Oh, c'est terrible. Pourtant, Piqué donnait toujours son 100%, il me semble. Mais contre Shea Weber, c'est pas mauvais, par contre. Là, mais moi, je serais déçu.
C'est pas une bonne chose.
J'étais sous le choc, mais je pense que c'est un bon échange. Parce que Shea Weber, c'est vraiment un bon joueur.
C'est pas vrai? C'est vrai? Sérieux? C'est vrai? C'est...
Il y a presque 10 ans, jour pour jour, le 29 juin 2016... Onde de choc à Montréal. Piqué Souban est échangé aux Prédateurs de Nashville en retour de Shea Weber. Les Prédateurs qui échangent leur capitaine et le Canadien qui échange son favori de la foule.
Mm-hmm.
Une transaction 1
pour un.
Ouais.
Mano for mano,
ouais.
Comme on voit rarement dans le sport. Je parle de Montréal, je parle de Nashville, mais pas juste dans ces deux marchés-là. À travers toute la ligue, c'est une transaction qui a été marquante.
Exact.
Moi, c'était gros, là.
Ben oui, c'était gros. Moi, je me souviens, peu de temps après cette transaction-là, on avait un Shea Weber versus P.K. Subban Tracker. C'était un site internet qui suivait les points, le temps de glace, les tirs, les plus et moins. Écoute, pour que quelqu'un crée un site web pour faire le comparatif des deux joueurs, c'est parce que ça a marqué. Honnêtement.
Ah, puis c'est en plus deux défenseurs.
Ouais.
Deux droitiers.
Deux droitiers, exact.
Subban, 4 ans plus jeune que Weber. Écoute, moi, je me rappelle, là, je revenais d'un rendez-vous au dentiste. J'avais 14-15 ans. Mm. Puis je m'étais fait enlever les dents de sagesse. Fait que déjà, ça allait pas, là.
Non, j'étais dans un drôle d'état, déjà.
J'étais dans un drôle d'état. J'avais les joues grosses comme un chipmunk. J'arrive chez moi, je vois ça. Hey boy, j'ai pas filé. Je peux te dire que j'ai pas filé. Ouais. Subban, c'était mon premier joueur. Mon joueur préféré, j'étais vraiment sous le choc. Mais c'est une transaction qu'on avait vu venir parce que commençait à avoir énormément de rumeurs impliquant Subban. Bergevin avait dit publiquement qui n'était pas intouchable, et il y avait sa fameuse clause de non-mouvement qui arrivait le 1er juillet 2016. Alors, le Canadien avait quelques jours pour l'échanger à l'équipe de son choix, sinon ça allait être beaucoup plus compliqué par la suite. Ça reste que c'est une transaction qui a fait mal aux partisans à Montréal.
Ben oui.
Ça, c'est indéniable. Piqué était un favori de la foule à cause de son style de jeu spectaculaire sur la glace.
Ses habiletés, ouais,
c'était du bonbon à voir jouer. T'sais, les grosses mises en échec, les montées, le tir puissant.
Mm-hmm.
Mais aussi parce qu'il était capable de faire à l'extérieur de la patinoire. C'était quelqu'un de rassembleur, d'impliqué dans la communauté. Son fameux don, l'argent qu'il a amassé pour l'hôpital général pour enfants de Montréal, 10 millions de dollars. Il apprenait le français,
ouais.
Ce qui est quelque chose qu'on voit à peu près plus.
Ouais,
en série, il était clutch. Tu sais, l'expression « avoir son équipe tatouée sur le cœur », lui, il avait le CH tatoué sur le cœur.
Oui, puis on le voyait à de nombreuses reprises lors des célébrations de but, embrasser le logo du Canadien.
Ouais.
Sans oublier aussi, Ali, sa relation avec Mme Béliveau.
Ben oui, au décès de M. Béliveau, il est devenu très, très proche d'elle. Tu voyais que ce gars-là, il comprenait ce que ça voulait dire de jouer pour le Canadien de Montréal, ce qui n'est pas toujours le cas. On commence à le revoir.
Ouais.
Je pense que la jeune génération de joueurs qui s'en viennent avec l'équipe, ils sont fiers. Mais ça a comme été perdu dans les années suivantes.
Ouais,
c'était business.
Ouais, 100%.
Mais lui, il comprenait que c'était plus que de la business pour les gens à Montréal.
Exact. Et lui, tu sais, à se rappeler que c'était un partisan du Canadien lorsqu'il était plus jeune aussi.
Ouais.
Tu sais, c'est ça, l'aspect d'avoir de la partisanerie, mais de la compréhension de cause. P.K. Subban a été incroyable, mm-hmm, pour le Canadien de Montréal. On l'a vu grandir, notamment dans cette fameuse run-là
en 2010.
Exact, où il était recru, qui par la suite a juste été un défenseur d'impact. Sa relation qu'il avait avec Andrei Markov aussi.
Ouais.
T'sais, le gars a grandi dans l'organisation, ça a été un vote de confiance. Et ça a été d'une grande tristesse quand il a quitté. On doit dire aussi que Shea Weber a eu un gros impact au sein du Canadien de Montréal.
Tout un joueur
aussi,
de l'autre,
exact,
bord. Shea Weber était un des meilleurs défenseurs de la Ligue.
Ouais.
À ce moment-là, un gars équipe Canada, classique, bœuf de l'Ouest,
ouais,
reconnu pour son leadership. Puis c'est pour ça qu'avec le recul, c'est dur de dire un petit peu qui a gagné la transaction. Parce que si on regarde le résumé de chaque joueur, ben Subban à Nashville, il a joué 3 ans, 130 points en 211 matchs, finaliste au Norris, a fait 3 fois les séries, dont une fois
en
les Preds se sont rendus en finale,
ouais,
et ils se sont inclinés contre les Penguins de Pittsburgh. Et Shea Weber à Montréal, c'est 5 saisons. Il est devenu le capitaine. 146 points en 275 matchs, 3 qualifications en série, 1 finale. Puis on l'a apporté beaucoup pour le leadership, là.
Exact.
C'était ça qu'on voulait, un gars qui allait peut-être remettre l'ordre dans le vestiaire. Puis on en parle encore aujourd'hui, les Nick Suzuki de ce monde en parlent de à quel point Shea Weber, il y avait de la prestance et c'était un leader incroyable. Ils ont énormément appris de lui.
Ben, tu l'as dit, je pense que c'était pour justement remettre l'ordre dans le vestiaire. Shea Weber a fait exactement,
ouais,
ça et a amené une certaine mentalité au sein des jeunes joueurs qui sont maintenant les meneurs dans le vestiaire du Canadien. Tu sais, les Caulfield, les Suzuki qui ont appris des Weber. ça a été super important. C'est pas pour rien que Shea Weber se retrouve dans l'anneau d'honneur du Canadien de Montréal, qui a porté du C, même mais si ça fait long, même si ça fait pas longtemps.
Mais tu vois, quand je pense à la carrière de Shea Weber, malgré tout, même s'il a joué ici à Montréal, dans ma tête, c'est plus un prédateur de Nashville.
Ça va toujours être ça.
Qu'un Canadien de Montréal.
Ça va toujours être ça.
Il a joué plus longtemps là-bas. C'est là où il était dans ses meilleures années. Mm-hmm. C'était plus nécessairement le joueur qu'il était à Montréal. Mais t'as raison, qu'il a vraiment apporté quelque chose qu'on recherchait à ce moment-là. Ouais.
Mais lui
moi,
aussi,
j'ai quand
il
même
était
l'impression
fier.
Que c'est une erreur d'avoir échangé Subban. Mm-hmm. Puis je pense que c'est extrêmement polarisant comme question. C'est 50-50. Soit vous êtes d'un bord, soit vous êtes de l'autre. Mais à cause de tout ce que j'ai parlé précédemment, pour moi, t'échanges pas un gars comme ça.
Non, mais c'est sûr. Là,
tu t'acceptes à vivre avec ce que tu considères comme étant peut-être du négatif ou peu importe. Là. En tout cas, je veux pas trop embarquer là-dedans. Là,
non, mais je comprends ton point du fait.
Il y a toujours du monde qui l'ont haï pour certaines raisons. Mais avec tout le positif qu'il te donnait, peu importe, ça valait la peine.
Ouais, puis je comprends ton point qu'au final, c'était peut-être une décision liée avec la relation que P.K. Subban avait avec l'état-major du Canadien et certains joueurs qui étaient importants à ce moment-là
exactement.
Dans le vestiaire. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, c'est difficile prendre une décision, mais je suis d'accord avec le fait qu'on aurait pu le voir fleurir à Montréal. Il aurait pu passer toute sa carrière à Montréal, tu comprends?
Il aurait pu passer toute sa carrière ici et ça aurait été vraiment un
exact.
Canadien pour la vie. Moi, un des plus gros scénarios What If, que j'aime, 5 jours plus tôt. Donc, la transaction a eu lieu le 29 juin. 5 jours plus tôt, on est en marge du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Et l'informateur Kevin Weeks, qui tweet, le tweet est encore là, si jamais vous voulez aller le voir. On me dit que les Oilers d'Edmonton seraient très agressifs dans le dossier de P.K. Subban. Ils offriraient, entre autres, Leon Draisaitl et un échange de choix de premier tour en retour. Le Canadien qui avait le 9e choix cette année-là, ils ont fini par prendre Mikhail Sergachev, les Oilers qui avaient le 4e pour ils ont pris Jesse Puljujärvi. Finalement, on comprend peut-être qu'une fois que Pierre-Luc Dubois était plus disponible, Marc Bergevin voulait pas, mais je veux dire, hey, Leon Draisaitl.
Ça aurait été fou, ça. Ça aurait été fou, ça.
Si Weber était bon ou Draisaitl, il change ta franchise.
Ouais, 100%. Ça aurait été incroyable, ça. On peut rêver, on a le droit de rêver.
Ce qui est encore plus drôle, c'est que quand tu regardes les réponses des partisans du Canadien à ce moment-là, il y en a plein qui sont comme « Je veux rien savoir de Draisaitl, c'est qui ça? Il est pas si bon que ça. Non, non, non. »
Vous avez raison, dans le fond.
Écoute.
C'est ça.
Ça a mal vieilli.
Exact.
On va prendre une courte pause. Au retour, c'est le dugout. On fait un tour de l'actualité dans le baseball majeur. Ça a pas super bien été en fin de semaine pour les Blue Jays. L'attaque qui est vraiment tombée en panne. Mais il y a une équipe qui est en train d'écrire une histoire incroyable dans le baseball majeur. Et on fait le tour dans 2 minutes.
Expérience Mata. À seulement 1 heure de Montréal, notre parcours figure parmi les plus beaux au Québec. Fairway impeccable, panorama spectaculaire et une atmosphère qui donne envie de prolonger la journée. Hébergement, spa, activités nautiques, jelly ball, tout est là pour en faire une vraie escapade. Réservez votre ronde dès maintenant au expériencemata.ca.
Lasagne surgelée, puissance moyenne, pendant 15 minutes. On dirait que c'est l'heure d'Ojo. Prêt à jouer?
Vivez le plaisir sur playojo.net avec toutes vos machines à sous et jeux casino préférés comme Jungle Beast et Sugar Rush. En plus d'exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Hey, j'ai gagné!
Wouhou! Sentir le plaisir, PlayOjo!
Chérie, oublie la lasagne, on doit fêter ça!
Disponible pour tous les joueurs de 18 ans et plus. Ceci n'est pas un site de jeu d'argent. Veuillez jouer de façon responsable.
Les entreprises peuvent expédier à Villeray et Rosemont et Petite-Bourgogne et Hochelaga et Anjou et Côte-des-Neiges et Verdun et Hornsic et Pointe-Saint-Charles et Le Plateau et Dollard-des-Ormeaux et La Chine et Outremont et Dorval à partir de seulement $3.96. Découvrez notre nouveau tarif quotidien le plus bas jamais offert aux entreprises. Expédié localement à Montréal à partir de seulement $3.96 avec Poste Canada. Découvrez comment votre entreprise peut expédier et économiser à postecanada.ca/meilleur tarif Montréal. Des conditions s'appliquent.
Chez SFL, on est un réseau de conseillers indépendants en gestion de patrimoine.
Tous les patrimoines.
Ça, un patrimoine, c'est l'ensemble de vos biens et de votre argent, entre autres. Et on s'occupe de gérer
les gros patrimoines qui s'accumulent depuis des années.
Tout comme les petits patrimoines qu'on commence à bâtir.
Alors que ce soit pour vos placements, vos finances, vos assurances ou votre entreprise, le futur se planifie plus facilement quand on y pense dès maintenant. SFL, gestion de patrimoine.